Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire l'amour humain et l'amour divin. Sri Aurobindo exprime ceci. Le phénomène dont vous parlez est normal pour la nature humaine. Les individus sont attirés l'un vers l'autre ou l'un est attiré vers l'autre par un certain sentiment d'affinité, d'accord ou d'attirance entre une certaine partie de sa propre nature et une certaine partie de la nature de l'autre. Tout d'abord, c'est la seule chose que l'on ressent. On voit que tout ce qui est bon ou plaisant dans la nature de l'autre, et l'on va même peut-être jusqu'à lui attribuer des qualités qu'il ne possède pas ou qu'il possède à un moindre degré qu'on ne le croit. Mais lorsqu'on le connaît mieux, on devient sensible à d'autres parties de sa nature avec lesquelles on n'est pas en affinité. Les idées peuvent se heurter, les sentiments s'opposer ou les deux égaux entrer en conflit. Si le sentiment d'amour ou d'amitié est fort et durable, on peut surmonter les difficultés de ces contacts et arriver à les harmoniser ou à s'en accommoder. Mais très souvent, ce n'est pas le cas, où le désaccord est si aigu qu'il fait obstacle à cette tendance à la conciliation, ou encore l'ego est blessé au point de se rétracter. Alors, il est tout à fait possible que l'on commence à voir exagérément les défauts de l'autre et les grossir, ou à lui attribuer des traits de caractère mauvais ou déplaisants qui ne sont pas en lui. Toute la vision peut changer, le bon sentiment se muer en rancune, en désaffection et même en inimité ou en antipathie. Cela se produit tout le temps dans la vie humaine. Le contraire arrive aussi, mais moins aisément. Le ressentiment se change en bon sentiment, l'opposition en harmonie, mais évidemment la mauvaise opinion ou le ressentiment envers une personne ne découle pas forcément de cette seule cause. Ils proviennent de causes multiples, aversion instinctive, jalousie, intérêt antagoniste, etc. Il faut essayer de regarder les autres avec calme, sans trop s'appesantir sur leurs vertus ou leurs défauts, sans ressentiment, sans malentendu ni injustice, avec un mental et une vision calme. Tout cela n'est évidemment pas mais de l'amour propre. La jalousie n'est qu'une forme détestable de l'amour propre. C'est parce que les gens ne comprennent pas. Ils croient même que les exigences, la jalousie, la vanité blessée. Alors je répète, tout cela n'est évidemment pas de l'amour, mais de l'amour propre. La jalousie n'est qu'une forme détestable de l'amour propre. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ils croient même que les exigences, la jalousie, la vanité blessée sont des signes de l'amour, ou du moins ses compagnons naturels. Un certain nombre de femmes peuvent aimer avec le mental, le psychique, le vital, le cœur, mais répugnent à ce que l'on touche leur corps. Et même quand cette répulsion cesse, l'acte physique continue à leur faire horreur. Elles cèdent parfois à des insistances pressantes, mais ne sont pas pour autant réconciliés avec l'acte qui leur semble toujours animal et dégradant. Les femmes savent cela alors que les hommes semblent avoir du mal à le croire, mais c'est tout à fait vrai. Anormal est un mot que l'on peut accoler à tout ce qui n'est pas ordinaire et tout à fait sans valeur. Ainsi, le génie est anormal, la spiritualité est anormale, et aussi l'effort de vivre en se confrontant à un idéal élevé. La tendance des femmes à la chasteté n'est pas anormale. Elle est aussi fréquente et se rencontre chez des femmes de type très supérieur. Le mental est le siège de la pensée et de la perception. Le cœur est le siège de l'amour, le vital, celui du désir. Mais en quoi cela empêcherait-il l'amour mental d'exister? Le mental peut être envahi par les sentiments de l'être émotif ou du vital. De même, le cœur peut être dominé par le mental, ému par des choses, par des forces mentales. Un amour vital, il y a un amour vital, un amour physique. Le vital est capable de désirer une femme pour diverses raisons vitales sans amour. Pour satisfaire l'instinct de domination ou de possession, pour puiser dans les forces vitales d'une femme afin de nourrir ses propres forces, pour échanger des forces vitales, pour satisfaire sa vanité, son instinct de chasseur. Cela, c'est le point de vue de l'homme, mais la femme aussi a ses mobiles vitaux. On appelle souvent cela de l'amour, mais c'est seulement un désir vital, un genre de désir sexuel. Si cependant les émotions du cœur sont éveillées, cela devient un amour vital, où se mêlent dans ses mobiles vitaux, où certains d'entre eux, c'est un amour fort, mais néanmoins vital. Il peut y avoir aussi un amour physique, une attirance pour la beauté, le sex appeal, physique et toute autre chose de ce genre qui éveille l'émotion du cœur. Si cet éveil ne se produit pas, seul le besoin physique existe, et cela, c'est le pur désir sexuel et rien de plus. Mais l'amour physique peut exister. De la même manière, il peut exister un amour mental. Il naît de la tentative de trouver son idéal dans un autre, ou d'une forte passion mentale faite d'admiration et d'émerveillement, ou encore du mental qui cherche un compagnon, un complément qui parachève sa propre nature, un sahadharma, un guide et un soutien, un chef et un maître. Il peut aussi être motivé par toutes sortes d'autres raisons. En soi, ce sentiment n'est pas vraiment de l'amour, bien qu'il soit si souvent ardent qu'il s'en distingue à peine et puisse même pousser au sacrifice suprême, à un don de soi complet. Mais lorsqu'il éveille les émotions du cœur, il peut produire à un amour très puissant, qui est pourtant mental par ses origines et son caractère dominant. D'ordinaire, cependant, le mental et le vital s'associent. Mais parallèlement à cette association, il peut y avoir une désaffection pour l'acte physique, ce qui l'accompagne. ou même une franche aversion. Si l'homme devient pressant, la femme cédera sans doute, mais à contre-cœur, comme on dit, comme ses sentiments, contre ses sentiments et leurs instincts les plus profonds. C'est une psychologie bien ignorante que celle qui réduit tout au mobile sexuel et à l'impulsion sexuelle. Alors, je vais continuer. Après Sri Aurobindo, il y a Mère. Les femmes et l'avenir. La seconde question est d'un ordre tout à fait extérieur relativement, mais elle paraît assez indispensable parce qu'elle concerne notre éducation sportive et aussi, d'une façon générale, la base psychologique sur laquelle nous avons établi notre action ici. Ces choses ont été écrites par Sri Aurobindo. Je les ai écrites très souvent. Je vous les ai expliquées maintes fois. Mais avec assez de regret, je suis obligée de constater que ce n'est pas entré dans votre conscience. Je ne veux pas partir en guerre contre ce que vous sentez et ce que vous faites, mais je voudrais au moins que vous compreniez pourquoi les choses sont faites ici comme elles le sont. Au lieu de vous laisser aller dans votre spontanéité rétrograde à copier tout ce qui se fait ailleurs, sous prétexte que c'est comme ça que les choses se font, sous prétexte que vos parents et arrière-grands-parents, que les parents et les amis et les grands-parents de vos amis, que tous ceux qui sont restés au dehors continuent de faire les choses comme ça, ou qu'ils considèrent que c'est la seule façon normale, naturelle, de les faire. Je ne conteste pas le fait, en ce sens que l'humanité a été créée par la nature dans un but spécial et pour des fins spéciales, et qu'en vue de la réalisation de ces fins, elle a fabriqué des êtres et elle leur a donné des habitudes spéciales aussi, et des fonctions spéciales. Par conséquent, si vous parlez de choses naturelles, je ne peux pas vous dire que ce n'est pas naturel, mais parce que c'est la manière de la nature. Enfin, je crois vous avoir dit, pas seulement une fois, mais bien des fois. Et Sri Aurobindo aussi l'a écrit, pas une fois, mais bien des fois, que nous n'en étions pas ici pour recommencer et perpétuer, continuer ce qui se fait ailleurs. Et nous avons concrétisé ce fait spécialement dans notre éducation. Parce que je dois dire, sans offenser personne, que ceux qui viennent après avoir déjà beaucoup vécu, qui ont un passé assez lourd derrière eux, peuvent trouver difficile de changer immédiatement leur attitude et leur point de vue. Mais que si vous prenez des petits-enfants qui n'ont pas encore été gâtés, ils sont toujours gâtés, mais qui n'ont pas encore été trop gâtés par leur éducation ordinaire, les idées de la famille et l'atavisme des parents, vous avez une chance d'orienter la conscience sur la vraie route et d'obtenir un résultat tangible et concret. À vrai dire, nous n'avons pas à nous plaindre parce que nous avons eu des preuves éclatantes que, si l'on sait le faire, ce que nous prétendons est possible. Ce que nous prétendons, c'est que dans les conditions analogues, avec une éducation identique et des possibilités identiques, il n'y a pas de raison de faire une distinction catégorique, finale et impérative entre ce que l'on appelle des hommes et des femmes. Pour nous, les êtres humains sont l'expression d'une âme unique. Il est vrai, comme je le disais au début, que la nature a différencié ses expressions pour la satisfaction de ses besoins et de la réalisation de ses mobiles. Mais si nos besoins et nos mobiles sont d'une autre nature et que nous ne reconnaissons pas les fins physiques telles qu'elles sont conçues par la nature, soit des fins finales et absolues, alors nous pouvons essayer de développer des consciences sur une autre ligne. Malheureusement, nous nous sommes aperçus d'une chose. À mesure que les années passent et les petites filles deviennent des grandes filles, voilà que tout d'un coup elles commencent à se souvenir qu'elles sont des filles, qu'elles doivent être jolies, qu'elles doivent plaire, qu'elles doivent s'habiller d'une façon spéciale, faire des petites manières pour se faire remarquer, et tout le résultat de notre travail tombe par terre. Il y en a, il y a toujours des exceptions à la règle, qui ont compris et qui essayent de réaliser, mais même parmi celles-là, il reste à l'arrière-plan cette espèce de petite satisfaction de ne pas être tout à fait comme les autres, de pouvoir faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Et pour que cela paraisse clair, eh bien, il faut se comparer avec les autres. Alors, voilà exactement quelle a été l'occasion de ce que je viens de vous dire. C'est une question de l'une d'entre vous qui a fait naître une autre question et j'ai l'espoir que si je vous explique une fois de plus, en détail, en insistant sur le fait, nous pourrons repartir à nouveau et réaliser quelque chose de plus complet et de plus clair. Nous descendons tout à fait dans les choses terrestres. Quelqu'un a réussi très bien en athlétisme et a été la première dans une épreuve. Ce quelqu'un est elle, pour la facilité du langage. Alors, en plus, dans la satisfaction d'avoir bien fait, il y a une petite satisfaction d'avoir mieux fait que les autres, et elle est venue me demander pourquoi n'annonce-t-on pas les records féminins? Nous croyons avoir répété et redit qu'il n'y a pas de record féminin et de record masculin, qu'il y a des records de groupe. Alors, on m'a apporté cette question. Je crois que l'on a répondu à cette personne en lui disant ce que je viens de vous dire. Mais ce n'est pas tout. On m'avait dit avoir entendu cette question-ci. Pourquoi avez-vous le même programme d'éducation pour les garçons et pour les filles? Car nous vivons en un temps exceptionnel, à un tournant exceptionnel de l'histoire du monde. Jamais auparavant, peut-être, l'humanité n'a passé par une aussi sombre période de haine, de sang et de confusion. Et en même temps, jamais un si grand espoir, aussi fort, aussi ardent, ne s'est éveillé dans les cœurs. En fait, si nous écoutons la voix de notre cœur, nous percevons immédiatement que nous sommes plus ou moins consciemment en train d'attendre un nouveau règne de justice, de beauté, de bonne volonté harmonieuse et de fraternité. Et cela semble en complète contradiction avec l'état présent du monde. Mais nous savons tous que la nuit n'est jamais si sombre qu'avant l'aurore. Cette obscurité n'est-elle pas donc le signe d'une aube approche? Et comme jamais la nuit n'a été aussi complète, aussi terrifiante, peut-être jamais l'aube n'aura été aussi brillante, aussi pure, aussi lumineuse que celle qui vient. Après les mauvais rêves de la nuit, le monde s'éveillera à une nouvelle conscience. La civilisation qui trouve maintenant une fin si dramatique était fondée sur le pouvoir de la pensée agissant sur la matière et sur la vie. Ce qu'elle a été pour l'humanité, nous n'avons pas à en discuter maintenant. Mais un règne nouveau arrive, celui de l'esprit. Après l'humain, le divin. Pourtant, si nous avons eu assez de chance pour vivre sur Terre à une époque aussi prodigieuse et unique que celle-ci, est-ce assez d'attendre les événements de les regarder se dérouler? Tous ceux qui sentent que leur cœur dépasse les limites de leur propre personne et de leur propre famille, que leur pensée embrasse plus que les petits intérêts personnels et les conventions locales. Bref, tous ceux qui comprennent qu'ils n'appartiennent pas à eux-mêmes, ni à leur famille, ni à leur pays, mais au divin qui se manifeste dans tous les pays à travers l'humanité. Ceux-là, en vérité, savent qu'ils doivent se lever et se mettre au travail au nom de l'humanité pour que l'aube paraisse. Et dans ce travail capital, infini, complexe, quel peut être le rôle de la femme? Il est vrai que dès que des grands événements, de grandes œuvres sont en cause, la coutume est de reléguer les femmes dans un coin avec un sourire de mépris protecteur qui signifie « Ce n'est pas votre affaire, pauvre créature, faible et futile ». Les femmes, soumises, infantiles, paresseuses, peut-être ont accepté du moins dans de nombreux pays ce déplorable état de choses. J'ose dire qu'elles ont tort. Dans la vie de l'avenir, il n'y aura plus de place pour une telle division, un tel déséquilibre entre le masculin et le féminin. La vraie relation entre les deux sexes est sur un pied d'égalité. Le surhomme naîtra d'une femme. Quoi qu'il fasse, le surhomme devra tout de même naître d'une femme. C'est une grande et incontestable vérité, mais ce n'est pas suffisant que nous soyons fiers de cette vérité. Nous devons comprendre clairement ce qu'elle signifie. Prendre conscience de la responsabilité qu'elle crée et apprendre à faire face sérieusement à la tâche qui nous attend. Cette tâche est précisément notre part la plus importante dans le travail mondial actuel. Pour cela, nous devons alors comprendre, au moins dans leurs grandes lignes, quels sont les moyens par lesquels le chaos et l'obscurité actuels peuvent être transformés en lumière et en harmonie. Alors, je vais conclure ce texte que Mère explique. Et dans ce travail capital, infini, complexe, quel peut être le rôle de la femme ? Il est vrai que de très grands événements, de grandes œuvres sont en cause. Alors, à présent, l'homme gouverne pour sa vie par la raison. Toutes les activités du mental sont l'usage courant pour lui. Ses moyens de connaissance sont l'observation et la déduction. C'est par et à travers le raisonnement qu'il peut prendre ses décisions et choisir son chemin. On croit le faire ou croit bien le faire dans la vie. Une nouvelle espèce sera gouvernée par l'intuition, c'est-à-dire par la perception directe de la loi divine au-dedans. À l'heure actuelle, quelques êtres humains connaissent l'intuition et en font l'expérience, tout comme sans doute certains grands gorilles des forêts ont des lueurs de raisonnement. Dans l'humanité, quelques individus ont cultivé leur moi intérieur, qui ont concentré toute leur énergie sur la découverte véritable de la loi de leur être, possèdent plus ou moins la faculté d'intuition. Quand le mental est parfaitement silencieux, pur comme un miroir bien poli, immobile comme un étang pour un jour sans brise, alors d'en haut, comme une lumière des étoiles tombe sur ses eaux immobiles, la lumière du supramental, de la vérité intérieure, brille sur un mental calmé qui donne naissance à l'intuition. Ceux qui ont l'habitude d'écouter cette voix sortie du silence en font de plus en plus le motif déterminant de leur action. Et là où les autres, les hommes ordinaires, errent dans les dédales du raisonnement, eux vont droit leur chemin, guidés dans les méandres de la vie par l'intuition, cet instinct supérieur comme par une main forte et infaillible. Cette faculté qui est exceptionnelle et presque anormale de nos jours sera certainement tout à fait banale et naturelle dans la nouvelle espèce, dans l'homme de demain. Mais son exercice constant sera probablement préjudiciable aux facultés de raisonnement. tout comme l'homme ne possède plus l'extrême habileté physique du singe, de même le surhomme perdra l'extrême habileté mentale de l'homme, cette faculté de se tromper lui-même et de tromper les autres. Alors, mère, ce texte est de mère, ce que je viens de vous lire juste avant était de Sri Aurobindo. Alors, je remercie infiniment Sri Aurobindo et mère pour cette lecture où le titre est « La femme » qui est l'extrait des œuvres de Sri Aurobindo et de mère. Merci mère, merci Sri Aurobindo. Ganga Lakshmi.